Bonsoir à tous, il est 18h à Niamey, 18h au studio Kalangou. Bienvenue au journal en français présenté par Diallo Mariama Kenda. À la une de ce journal, expulsé du Niger le 3 avril, le journaliste Baba Alpha est encore à Labezanga au Mali. Sa situation civile n'est toujours pas fixée. Vous suivrez l'éclairage du juriste Amadou Adamou Bachir tout de suite sur cette expulsion de Baba. Affrontement hier entre étudiants et forces de l'ordre suite à l'arrêté du recteur de l'université de Niamey autorisant le déploiement des forces de l'ordre dans les facultés. Réaction dans ce journal du secrétaire général adjoint de l'ONU, Salah Kalla. Cap sur Gaïa dans la région de Dosso ce soir dans votre partie magazine pour parler de plusieurs cas de noyade enregistrés sur le fleuve Niger nécessitant les explications du chef des maîtres des eaux de Gaïa. Merci de rester en notre compagnie, messieurs, dames. Après l'expulsion de notre confrère Baba Alpha, qui se trouve à Labezanga au Mali depuis le 3 avril, ce dernier n'est toujours pas fixé sur sa situation civile, selon maître Amadou Adamou Bachir, chargé d'enseignement en droit à l'université de Toulon en France. Sa situation présente un aspect politique, un autre juridique. Il a été soustrait à la justice par une décision administrative et expulsé du Niger en violation des instruments juridiques nationaux et internationaux. Maître Bachir est au micro de Moussa Hassan.
Pour le cas de Baba Alpha, il a été poursuivi pour une infraction de droit commun qui est relative à un faux usage de faux. Donc elle n'en est à rien aujourd'hui liée à une forme de menace quelconque qui pourrait justifier son expulsion du Niger. Le dossier a été jugé, une décision a été rendue. Il a purgé une peine d'un an avec un an de sursis. Après cette peine, à partir justement de cet arrêté d'interdiction, on pourrait dire qu'il est en train de purger une double peine. La question de l'intégration régionale et sous-régionale a une assise constitutionnelle dans notre pays. Finalement, ce qui est en train de se passer pose une question de violation de certains instruments juridiques, tant du plan de vue national que régional et international. Il lui fallut, une fois que la notification a été faite, lui permettre de pouvoir saisir un juge des référés pour effectivement apprécier la légalité de cet arrêté d'expulsion. La citoyenneté communautaire aujourd'hui nous permet de pouvoir s'établir librement dans n'importe quel pays de la zone CEDEAO.
Maître Amadou Adamou Bachir, chargé d'enseignement en droit à l'Université de Toulon en France. Les nouveaux membres du Conseil supérieur de la communication ont prêté serment hier matin au Conseil d'État avant de procéder à la mise en place du nouveau bureau qui a à sa tête Dr Kabirou Sani pour un mandat de 5 ans. Quelles sont les attentes des médias par rapport à cette nouvelle équipe? Écoutons quelques avis.
L'une de mes attentes vis-à-vis de la nouvelle équipe dirigeante du CSC, c'est surtout l'impartialité, la neutralité, la justice vis-à-vis de tous les organes de presse. Si un organe de presse commet des dérives, que l'organe régulateur qui est le CSC prenne son bâton et frappe l'organe de presse. Les organes de presse doivent être traités de la même manière, au même pied d'égalité.
La préoccupation de l'ensemble des médias audiovisuels et de la presse écrite, même la presse en ligne, c'est de voir la nouvelle instance faire le travail qui est le sien et permettre aux uns aux autres de jouir pleinement de cette liberté consacrée par la loi fondamentale et la Constitution et que nous voudrions voir la nouvelle instance dirigeante amenée à faire plus que l'équipe qui est partie et c'est le lieu aussi de saluer l'équipe sortante qui a fait un bon travail.
Propos recueillis par Habibou Garba. Une trentaine de journalistes et animateurs des radios communautaires, de la radio d'État et du secteur privé de la région de Diffa a bénéficié d'une formation sur plusieurs questions en lien avec la sécurité. Étalée sur 5 jours, cette formation financée par le programme de cohésion communautaire PCCN vise à trouver une issue de sortie pour cette situation qui prévaut à Diffa en marge des actions des autorités. Boukar Alamine, fondateur au micro de Lawan Boukar.
Nous nous appesantissons particulièrement sur les questions de réhabilitation, d'incarcération, de tolérance, les questions de rejet, de réclusion. Ce sont des préoccupations normalement qui rentrent en ligne de compte, et particulièrement ici à Diffa, où nous vivons une situation qui veut que nous trouvions l'issue de cette situation, comme nos autorités sont en train de faire tous les efforts qui vont dans ce sens. En l'occurrence, ils ont reçu des repentis, et ces repentis-là, aujourd'hui, sont en passe d'être réintégrés. Maintenant, ces mécanismes de réintégration doivent normalement interpeller la population en général, les communautés d'origine de ces repentis, parce que il faut que les gens acceptent la logique de vengeance, entrent dans une logique de pardon, d'acceptation, de vivre ensemble, qui va essayer de ramener la paix, de renforcer la cohésion sociale.
Propos recueillis par Lawan Boukar. Le premier ministre malien Soumaïlou Boubey Maïga était en visite de travail hier à Niamey dans le cadre du renouvellement de coopération pour lutter contre l'insécurité dans la région. Les deux premiers ministres se sont notamment appesantis sur le rôle joué par le Niger dans la restauration de la souveraineté du Mali et la pacification de la région déstabilisée depuis 2012. Le premier ministre malien s'est réjoui que son pays, le Niger, ait été à l'avant-garde de la lutte contre le terrorisme, tout d'abord au sein du comité d'état-major opérationnel conjoint, CEMOC, et ensuite dans la force conjointe du G5 Sahel. L'arrêté du recteur de l'université de Niamey autorisant le déploiement des forces de l'ordre dans les facultés a causé hier après-midi des affrontements entre étudiants et les dites forces. Une autre note de service du recteur invitant les étudiants à reprendre le chemin des facultés alors qu'un mot d'ordre du comité directeur de l'USN suspendant toutes les activités académiques est en cours a contribué à durcir le ton entre les deux parties. Salah Kaila, secrétaire général adjoint de l'ONU, au micro de Tanal Foudé Ahmed.
Le fait de mobiliser les forces de défense et de sécurité dans les différentes facultés, jusqu'à hier gazer certains de nos camarades, il y a beaucoup qui sont blessés et qui ont été hospitalisés. Cela ne peut pas nous décourager. Ça nous donne davantage de courage et d'abnégation à pouvoir poursuivre la lutte. Ce que nous demandons aux autorités politiques et académiques, c'est de créer un climat de confiance entre les différents acteurs de l'université. Aujourd'hui, parce que nous avons des revendications, que le recteur est incapable de pouvoir satisfaire, que le gouvernement est incapable de pouvoir procéder à leur satisfaction aujourd'hui. Aujourd'hui, on installe tout un arsenal de forces de défense et de sécurité dans les différentes facultés pour instaurer un climat de terreur, mais que les autorités puissent s'en convaincre d'une seule chose, c'est que les étudiants ne peuvent pas être chantés à base de forces de défense et de sécurité. Nous avons une seule dynamique, c'est celle de faire en sorte à ce que nos revendications puissent être satisfaites.
C'était Salah Kaila, secrétaire général adjoint de l'UNUN. Installation mardi dernier à Agadez du comité technique ACOC chargé de la validation des projets particuliers du programme de promotion de l'éducation et de l'emploi PP2E. La mission principale de ce comité est d'examiner et valider les demandes soumises par les 15 communes de la région selon Egoura Mouha, l'expert en développement communautaire du PP2E au micro de Moussa Maman.
Toutes les 15 communes ont soumis des demandes en matière d'infrastructure scolaire, infrastructure économique, donc les gares, les MJC, les abattoirs, les magasins de stockage. Toutes ces demandes ont fait l'objet déjà de dossiers élaborés par des assistants à la maîtrise d'ouvrage, des assistants aux maires. On va les soumettre à l'approbation et à l'examen de ce comité-là qui vient d'être installé. Donc après son installation, on va adopter son règlement intérieur et on les remet leur arrêté qui sera signé par le gouverneur de la région d'Agadez.
Ejgou Mouha, expert en développement communautaire. Dans le cadre de la Semaine internationale de la francophonie, un concours international pour la promotion de la langue française dénommé ProLaf a été lancé ce matin au ministère des Affaires étrangères. 4 pays sont représentés, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. La composition a eu lieu au Collège Mariama. Cette compétition est organisée par le Bureau régional de l'Afrique de l'Ouest francophone et la Commission nationale de la francophonie du Niger. L'objectif est de rehausser le niveau des élèves en français et promouvoir la langue française. Stanislas Kognanou, promoteur du ProLaf.
On sélectionne par collège et par lycée deux apprenants par niveau. Tout cela se retrouve dans un centre. Je crois qu'au Niger, ça s'est déroulé dans les 8 régions. Puis après, il y a eu la phase nationale qui donne maintenant les représentants du Niger. Alors, pour la phase internationale, on a donc 56 lauréats. Donc, on a 4 pays représentés. Ils vont passer à l'oral. Et c'est après l'étape de l'oral qu'on va proclamer les résultats. On va retenir 3 par niveau. Donc, ça fait 21. Donc, 3 en 6e, 3 en 5e, jusqu'en terminale. Donc, ça fait 21. Les premiers, par exemple, partiront avec 100 000 francs. Les deuxièmes sont 15 000. Et puis, les troisièmes, là, ils vont partir avec 30 000 francs. Ce que nous remarquons tout de suite, c'est que les élèves, compte tenu de ce concours-là, sont beaucoup plus décidés maintenant à aller vers la lecture. Ce qui me réjouit, est le programme que nous avons initié, le Niger ont inséré ça dans le programme du BPC.
Stanislas Kounianou, promoteur de la promotion de la langue française ProLaf. Les résultats préliminaires de l'enquête démographique de santé du Niger 2017 rendu public révèlent une baisse du taux de fécondité de 7,6 enfants par femme en 2012 à 6 enfants en 2017. Pour Dr Iliassou Idi Maïnassara, ministre de la Santé, cette baisse serait liée à une diminution du taux de certains indicateurs sanitaires de base grâce aux multiples efforts consentis par les autorités pour améliorer la santé de la mère et de l'enfant. Il est au micro de Mohamed Mamane.
La baisse importante du taux de mortalité des enfants, surtout les enfants de 0 à 5 ans, est due à la poursuite de la gratuité de soins, à la gratuité de la consultation prénatale recentrée, à l'amélioration des plateaux techniques, à l'amélioration des infrastructures et à la mise en œuvre des stratégies concourant à l'amélioration de la santé des enfants au Niger. Et l'autre taux, c'est la baisse de la morbidité liée au PALU. Il y a eu beaucoup de campagnes de lutte contre le PALU. Le Niger a adopté durant ces 5 dernières années la politique de chimioprophylaxie anti-palustre qui consiste à trouver les enfants dans leur constitution et à leur administrer gratuitement tout ce qui est traitement préventif contre le PALU.
Vous venez d'entendre le ministre de la Santé publique, Dr Iliassou Idi Maïnassara. La partie magazine de ce journal à présent, à Gaïa, dans la région de Dosso, depuis un certain temps, plusieurs cas de noyade de personnes sont enregistrés sur le fleuve Niger. Qu'est-ce qui explique cet état de fait et que faut-il faire pour solutionner cette situation? Notre reporter Gungu Mamandantani, en mission dans la zone, s'est entretenu avec le chef des maîtres des eaux de Gaïa, Oumarou Namata, qui explique.
Il y a les véritables causes qui sont les mobiles des dégâts enregistrés au fleuve. Parce que voyez-vous que les enfants, qu'ils soient des élèves, des villageois, sont toujours dans le fleuve en train de se baigner. À l'heure où je vous parle, quand vous allez au fleuve, vous allez trouver plus d'une centaine d'enfants en train de s'amuser et de se baigner dans le fleuve. Et même si on les chasse, ils reviennent. Avant-hier, un jeune enfant, lui et son frère, sont allés au bord du fleuve pour faire la lessive. Le plus jeune s'est noyé. Heureusement, il a été sauvé. Et juste après, il est retourné dans le fleuve. Il a encore été noyé. Et personne ne s'est rendu compte. C'est vers 16h qu'il a été annoncé que le fils de Hangay n'est pas de retour. Alors nous avons mobilisé les pêcheurs qui ont passé un long temps à sa recherche dans le fleuve avant de retrouver son corps. Il est mort déjà. Après cet incident malheureux, un vendeur de carottes lui aussi, juste aux abords des services des eaux et forêts, après avoir lavé ses carottes, il s'est déshabillé et sauté dans le fleuve pour se baigner. Alors lui, nous n'avons pas pu retrouver son corps. Ce qui entraîne cette situation, oui, c'est qu'avant, les chefs coutumiers, chaque année, c'est vers eux que nous partons recevoir l'appui financier pour faire les sacrifices, pour calmer les esprits du fleuve. Après l'instauration de l'administration, ce sont les commandants du cercle qui donnaient l'appui pour faire les sacrifices. Et aujourd'hui, avec l'avènement de la décentralisation, ce sont les maires. Mais avec eux, la donation de l'appui n'est pas constante. Chaque fois que nous partons les voir, ils nous disent d'aller revenir. D'ailleurs, même avant-hier, il a fallu que je m'adresse à un élu pour qu'il nous facilite la tâche. Il est allé, mais malheureusement, le maire était en déplacement. Le sacrifice, eh bien, le sacrifice, voilà comment nous le faisons. Nous achetons un bélier blanc. C'est à 20h la nuit que nous réunissons tous les maîtres des eaux qui vont prononcer toutes les paroles y afférentes pour le culte. Puis le bélier est égorgé. Nous l'épaissons, nous enlevons les entrailles, la tête que nous enveloppons dans le cuir pour jeter le colis au milieu du fleuve. Cela fait, durant toute l'année, le fleuve ne va pas engloutir une personne. Selon les dires, un étranger qui se hasarde à plonger dans certains endroits du fleuve se verra à l'instant engloutir saisis par les eaux. Est-ce que cela est vrai? Non, ça c'est pour faire peur aux gens. Dire qu'après le sacrifice, c'est seulement un étranger que le fleuve va engloutir, mais pas un autochtone. Et même si c'est un autochtone qui ne sait pas nager, s'il plonge dans le fleuve, mais il risque de se faire engloutir quand même. Alors, êtes-vous allé auprès du chef de canton pour demander cet appui? Non, ce n'est plus à lui que nous devons nous adresser. Depuis la décentralisation, c'est le maire qui s'en occupe. Il nous donnait parfois 40 000 et même jusqu'à 100 000 francs. Donc, c'est seulement cette année que vous n'avez pas reçu l'appui? Oui, l'année passée, ça n'a pas été fait. Et même cette année.
C'est la fin de ce journal. Place au forum de studio Kalangou, présenté par Raïla Toussoumana. Une rediffusion, elle vous parle de la violence en milieu scolaire.